7h17 à Paris, c'est aujourd'hui l'économie. Bonjour Dominique Bayard.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
En Allemagne, les élections générales de dimanche marqueront, on en parle depuis le début de la semaine, la fin de l'ère Merkel après 16 ans de règne incontesté. La chancelière laisse en héritage un pays devenu très puissant sur le plan économique, un bilan positif avec quand même des failles, Dominique.
Oui, alors revenons en 2005, quand Angela Merkel arrive au pouvoir. Elle récolte le fruit de l'action réformatrice de son prédécesseur, le social-démocrate Gerhard Schröder a fait adopter des lois assez impopulaires pour libéraliser le marché du travail. Cela va permettre à l'Allemagne de sortir de sa torpeur. Ce tournant portera une croissance vigoureuse pendant les 15 ans qui suivent, une croissance deux fois plus forte que celle des voisins européens. En termes de PIB rapporté au nombre d'habitants, l'Allemagne de 2021 est devenue le pays le plus riche du G7, devant les États-Unis et bien loin devant ses partenaires européens. C'est aussi le pays européen en quasi plein emploi. Au mois d'août, le chômage est retombé à 5,5%, tout proche du niveau d'avant la pandémie.
L'économie allemande a d'ailleurs plutôt bien résisté à la crise provoquée par le coronavirus.
Parce que le confinement a été limité, parce que l'État, comme pendant la crise financière de 2008, a joué le rôle d'amortisseur. Malgré la reprise actuelle, presque sans encombre, le moral des Allemands a pris un coup. La pandémie a révélé les points faibles de leur modèle de croissance, notamment un gros retard dans la digitalisation. L'école à la maison, le suivi de la vaccination ont été des épreuves très difficiles à surmonter en Allemagne, faute d'équipement Internet, faute de débit suffisant. L'Allemagne découvre avec stupéfaction que le sous-investissement chronique a miné les bases de son développement. Les écoles, les routes, les administrations ont un besoin urgent de modernisation.
Et les entreprises allemandes se plaignent aussi, Dominique, du coût élevé de l'électricité.
Et c'est la plus chère d'Europe, hein, qui cela pénalise aussi les ménages, bien sûr. Alors, en renonçant au nucléaire après Fukushima en 2011 et en subventionnant massivement les énergies renouvelables, Angela Merkel a fait gonfler la facture sans pour autant parvenir à réduire les émissions de carbone, puisque les centrales au charbon ont remplacé l'atome comme variable d'ajustement. À ce rythme, la décarbonation de l'économie allemande ne sera pas achevée selon le calendrier fixé à Bruxelles. Continuer comme ça, ce n'est pas possible pour les industriels. C'est ce que souligne le directeur de la Chambre de commerce franco-allemande, Patrick Brandmeier. Pour les milieux d'affaires, le climat, la digitalisation, ce sont les principaux enjeux des élections. Les dépenses nécessaires dans ces deux domaines sont faramineuses, du même ordre que celles occasionnées par la réunification d'Allemagne.
Alors, comment les partis en lice aux élections comptent financer ces dépenses?
Eh bien, ils préfèrent rester flous sur la question, hein. Ils se gardent bien de chiffrer trop précisément le volume des investissements publics qu'il faudra réaliser, de peur sans doute de heurter un électorat très très attaché à la rigueur budgétaire. Seuls les Verts osent, ils prônent la fin du frein à l'endettement inscrit dans la Constitution allemande, un frein qui stipule que le déficit annuel ne peut pas excéder 0,35% du PIB. Avec une règle aussi stricte, il sera compliqué d'emprunter les centaines de milliards d'euros nécessaires pour adapter l'économie allemande au changement climatique. Mais sur le fond, les lignes ont déjà bougé avec Angela Merkel. Elle a fini par accepter le recours à la dette commune pour financer le plan de relance européen post-Covid. Les partis qui formeront une coalition de gouvernement pourraient non pas abolir les règles de l'orthodoxie, c'est trop coûteux politiquement, mais pourquoi pas les contourner en créant des fonds dédiés hors budget.
Voilà pour l'Allemagne, l'actualité économique ce matin. En bref, c'est aussi le géant chinois de l'immobilier Evergrande qui s'éloigne du défaut de paiement. Il dit être en mesure d'honorer les échéances dues ce jeudi.
Oui, il a finalement trouvé les 30 milliards d'euros d'intérêts qu'il doit verser jeudi pour éviter le défaut. Les marchés sont soulagés, même si le problème est quasiment entier. La dette totale d'Evergrande se monte à 260 milliards d'euros.
Et puis à suivre aujourd'hui en France, Dominique, la présentation du projet de budget 2022.
Un budget d'année électorale présidentielle et donc avec pas mal de dépenses en vue, malgré la fin officielle du quoi qu'il en coûte assumé au plus fort de la crise déclenchée par la pandémie.
Aujourd'hui, l'économie avec Dominique Bayard.